Anne-Sophie Biraud, vous êtes la co-réalisatrice avec Laetitia Douane de Deux rêves et de parpaings. C'est un documentaire que nous allons découvrir à Avignon, dans les Salles Utopia, qui ensuite va tourner un petit peu partout dans l'Hexagone. Dans Deux rêves et de parpaings, on assiste à la construction d'un local, quelque part à Montreuil, au fil des saisons. Comment êtes-vous arrivé justement sur ce projet de raconter la construction d'un local ?
Alors moi j'étais amie avec Chantal qui a co-créé le collectif Les Enchantières. C'est un collectif qui au départ avait pour vocation de transmettre aux femmes des savoirs dans le domaine de la construction et du bricolage. Donc il y avait des ateliers qui étaient organisés le dimanche à Montreuil pour les femmes, dans des salles qui étaient prêtées par la municipalité de Montreuil. Donc ça marchait très bien, les activités se multipliaient, mais pour les enchantières, il fallait à chaque fois déplacer du matériel, se déplacer, réorganiser tout. Si bien qu'elles ont fini par ressentir le besoin d'avoir un lieu fixe, ce dont elles ont informé la mairie, qui leur a dit qu'il n'y avait pas de lieu fixe à disposition. L'une d'entre elles a dit, mais un peu pour rire, que c'était pas grave, qu'elles allaient le construire. Là-dessus, la mairie a dit « Ah, mais si vous voulez le construire, on pourrait peut-être mettre un terrain à votre disposition. » Alors le collectif s'était étoffé entre-temps, il y avait d'autres artisanes et non-artisanes, elles étaient un petit groupe de 10-15, et elles ont monté un projet de construction de leur local en chantier participatif. Le principe étant que les femmes qui venaient apprendre dans les ateliers pourraient apprendre en fabriquant le bâtiment. Et donc elles ont monté un projet avec une architecte et elles l'ont déposé au budget participatif de la ville de Montreuil et les habitants ont voté massivement pour leur projet, ce qui leur a valu de recevoir une grosse subvention. C'est ce qui a permis de lancer le chantier.
Alors vous-même, personnellement, vous êtes réalisatrice, vous êtes cinéaste, vous avez fait la FEMIS, vous avez travaillé dans la fiction. Après, vous avez tourné quelques documentaires et depuis quelques années, vous vous consacrez essentiellement à l'enseignement. Peut-on dire que ce projet vous a redonné l'envie de filmer ?
Il s'est imposé à moi, je ne savais pas du tout si j'allais refaire des films ou pas. En fait, je pense qu'il ne faut pas à tout prix faire des films. On fait des films quand on a des choses à dire. Peut-être que pendant un temps, j'avais plus de choses à transmettre que de choses à vraiment créer. Parce que j'étais amie avec Chantal et que j'ai connu ce projet, j'ai pu rencontrer les enchantières, ça a déclenché chez moi une envie très très forte et même irrépressible. Il fallait à tout prix que je filme cette histoire, quoi. Donc j'ai pris ma caméra et j'y suis allée, et cette fois-ci j'y suis allée moi-même. J'avais jamais filmé moi-même les autres projets et là c'est ce que j'ai fait.
Lorsque vous avez décidé de prendre votre caméra, est-ce que vous saviez déjà ce que vous vouliez montrer ou est-ce que vous avez découvert au fur et à mesure des choses auxquelles vous ne pensiez pas et qui finalement impriment le film ?
J'avais l'intuition déjà que c'était très cinématographique parce qu'un bâtiment, ça part d'un terrain vide que j'avais vu et petit à petit, on imagine que le bâtiment va agrandir dans le cadre. Il y avait aussi un temps dramatique qui était la durée du chantier qui me paraissait très intéressant d'un point de vue narratif. Après, c'est une grande aventure, un peu comme un gros bateau qui s'élance sur l'océan pour faire une traversée et qui doit affronter vents et marées. On ne sait pas du tout s'il va arriver au bout. Et en l'occurrence, le chantier a démarré en retard après le premier confinement dû au Covid. Il s'est arrêté plusieurs fois à cause du Covid. Il s'est arrêté aussi pour des problèmes de livraison, etc. Il y a eu pendant tout le temps vraiment des obstacles qui sont apparus et qu'il a fallu dépasser. Moi, je me souviens que quand on était en plein hiver et qu'il faisait moins 3 sur le chantier et que tous les cafés étaient fermés autour, on était sur place et on n'avait pas un endroit où aller se réchauffer à midi. Donc, on faisait chauffer des bouilloires, etc. Et c'était des cafés, des chocolats, des bouillottes. On se réchauffait comme on pouvait et on restait sur le chantier, en fait. Donc, c'est beaucoup de choses à affronter qui sont imprévues.
Comme je l'ai dit au début de notre entretien, c'est un film co-réalisé par Anne-Sophie Biraud et Laetitia Douane. C'est facile de tourner un documentaire, un making-of, parce que c'est vraiment un making-of avec 4 yeux et 4 mains.
Oui, c'est possible dans la mesure où on s'est relayé sur le chantier. En fait, moi, j'ai un travail à côté. Laetitia, qui habite en Belgique, à Bruxelles, n'était pas là tout le temps. Et en fait, à chaque fois, il y avait une personne sur le chantier avec une caméra équipée d'un très bon micro. Et c'était une réalisatrice très mobile, que ce soit elle ou moi, qui grimpait sur les échafaudages, qui allait sur le toit, etc., pour filmer les femmes au plus près. Et donc, après, c'était des concertations à deux, parce qu'à chaque fois, on se retrouvait pour discuter, on regardait des images, on rectifiait nos intentions, nos façons de faire, qui ont évolué au fur et à mesure du chantier.
Quand on voit le chantier, on a l'impression qu'il y a une sorte d'harmonie qui traverse les saisons d'abord, puisque ça commence en été, après il y a le froid et puis il y a le Covid aussi. Il y a la fin un coup de théâtre assez bouleversant, mais on n'en dira pas plus. on a l'impression que ça coule de source, alors que par moments, il y a quand même des scènes de discussion où on sent quand même qu'il y a quelques frictions, je suppose.
Il y a des frictions, c'est une aventure humaine, il y a du tiraillement entre les personnes, notamment dans l'organisation, mais il y a aussi une volonté très politique qui est due aux valeurs des enchantières de faire en sorte que les conflits se règlent en collectif. Et pour avoir filmé un certain nombre de réunions, je peux dire que quand il y a un conflit ou un problème ou un désaccord, les enchantières discutent entre elles le temps qu'il faut jusqu'au moment où elles vont trouver un consensus. Voilà. Et des fois, ça peut prendre 4 heures de réunion ou plus, mais au final, jamais rien n'est voté à la majorité ou ce genre de choses. Ça n'existe pas aux enchantières. Il faut qu'elles soient toutes d'accord. Donc c'est long des fois.
Autant dire qu'une assemblée de femmes, finalement, est beaucoup plus efficace qu'une assemblée mixte ou alors une assemblée d'hommes.
Je dirais pas ça, je dirais que tout dépend de la volonté politique qui est mise au départ. Si une assemblée d'hommes, un groupe d'hommes décidait de faire la même chose, je pense que ce serait possible. Après, il faut une décision au départ par rapport à des valeurs et après, il faut s'y tenir.
Ce qui est assez passionnant dans le film, c'est que bon, on voit progressivement le local, la maison qui monte. Dans les échanges, on a l'impression qu'elles le font et elles apprennent en même temps.
Alors, les nouvelles, elles travaillent en binôme et chaque apprenante, elle arrive, elle est mise en binôme avec une autre personne qui a déjà fait un peu de chantier et qui connaît un peu les techniques et qui va les lui transmettre. Alors, pas de façon verticale, en lui disant « il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ça », mais en la faisant réfléchir et comment tu ferais, elle l'aide en fait. Et une fois que cette apprenante a passé quelques jours sur le chantier, c'est elle qui va être en binôme avec une nouvelle femme qui vient pour apprendre. Et il y a une transmission comme ça qui s'opère de femme en femme. Quand on est apprenante, on devient encadrante assez rapidement.
On va défiler beaucoup de dames sur ce chantier. Il y a eu combien d'ouvrières ou de manutentionnaires ou de manufacturières qui se sont succédées sur ce local ?
Alors, moi, j'en ai filmé un peu plus de 200. Après, j'étais pas là 100% du temps, ni Laetitia. Donc, il y en a eu plus que ça. Je pense qu'il a dû en avoir 250 ou 300. Parce qu'il y en a qui viennent régulièrement, et puis il y en a qui viennent une fois, et puis il y en a qui viennent 10 fois ou 3 fois. Donc, c'est variable.
Le film est assez bref, bon, il dure à peu près 90 minutes, il est quand même très rythmé, même si on suit l'élaboration et l'écoulement des saisons. Il y a eu combien d'heures d'enregistrer ?
Alors là, c'est considérable. Il y a un peu plus de 250 heures de rush. On a tourné 2 ans, qui sont ramassés sur 1 an de chantier, là, dans le film. Et on était beaucoup là parce que c'est typiquement le type de projet où il faut être sur place pour saisir ce qui se passe, notamment les paroles entre les femmes, tout ce qui se joue entre elles. Pour d'autres projets documentaires, plus mis en scène en amont, etc., je pense qu'on a besoin de moins tourner. Mais là, c'était vraiment, pour toute cette partie de cinéma direct, il fallait être là beaucoup. Et donc, parfois, on vient pour filmer toute une journée et on en garde de rien ou peut-être 2 minutes, voilà.
Au niveau du choix du montage, quand on voit le film, moi je vois ça un peu comme la construction d'une utopie et la célébration d'un collectif.
Alors oui, complètement. C'est au fur et à mesure qu'on tournait, en fait, qu'on s'est aperçu de la dimension collective et de l'importance de la dimension collective du projet. Donc au début, on filmait beaucoup les binômes en train de travailler, l'apprentissage, etc. Et plus le temps passait, plus on a eu envie de reculer avec la caméra pour faire des plans inclusifs et de mettre beaucoup de femmes dedans. Parce que, par exemple, quand on les voit porter les poutres ou les choses comme ça, c'est vraiment la force collective qui fait que ça marche. Et puis pour les histoires de fonctionnement, du collectif, règlement des conflits, etc. C'est aussi la dimension collective qui fait que ça marche. Donc ça nous a paru vraiment important d'aller vers ça. Et donc à plus forte raison, au montage, ça s'est imposé.
À un moment dans le film, on entreaperçoit un homme. Est-ce que vraiment il n'y a eu que des femmes qui ont travaillé sur le chantier ? Est-ce que jamais vous n'avez fait appel à un homme ?
Alors, il n'y a pas eu d'homme sur ce chantier. À part les livreurs et celui qu'on aperçoit en fond de plan à un moment, c'est un livreur qui est venu livrer du bois avec son camion et qui nous snobait un peu d'ailleurs.
C'est-à-dire qu'il ne comprenait pas que sur le chantier, il n'y ait que des femmes ?
Je pense qu'il était un peu déboussolé, il ne comprenait pas ce qui se passait, il ne comprenait pas pourquoi il n'y avait que des femmes et il ne nous adressait pas la parole. Et il était un peu méprisant, je pense, ou incrédule, je ne sais pas, c'est peut-être un mélange, c'est difficile de parler à sa place, hein, j'en sais rien. En tout cas, dérouté, oui, sûrement. Et il y a eu un autre moment où il a été fait appel à 1 ou 2 hommes. Il a fallu aller chercher des compétences qu'on n'avait pas et aller à la pêche aux informations par rapport à des techniques particulières. Oui, il y a une transmission de la part d'un ou deux hommes. Ce n'est pas un film anti-homme. Hein.
À la fin, il y a un peu un coup du destin qui s'abat sur le chantier. Est-ce que durant ces 2 ans qu'a duré le chantier, il n'y a pas eu des moments d'abattement ou de découragement ?
Si, bien sûr. Il y a des moments où on ne sait pas si ça va redémarrer. Bon, il y a eu les interruptions liées au Covid. On ne sait jamais ce qui va se passer derrière. Il y a eu des problèmes financiers parce que la subvention n'a pas suffi et on s'est retrouvé à payer des choses dont on pensait qu'elles auraient été prises en charge par les pouvoirs publics et ce n'était pas le cas. Et il y a eu du dépassement et il y a eu, pendant le chantier, une équipe au sein des entrepreneurs qui s'est mise à chercher d'autres subventions et il a fallu obtenir d'autres subventions pour continuer le chantier. Donc il y a des moments où on ne sait pas si ça va continuer. Il y a l'épisode dont vous parlez, dont on ne savait pas s'il serait possible de poursuivre le chantier après ça, quoi.
Dans une de vos interviews, vous dites maintenant, quand on a une vue aérienne de Montreuil, on voit le bâtiment qui est vraiment inclus dans la ville. Et qu'est-ce qui s'y passe dans ce local actuellement ?
En fait, le bâtiment a retrouvé la vocation première des enchantières, qui était de transmettre aux femmes des savoirs dans le domaine du bricolage et de la construction. Autrefois, il y avait des ateliers le dimanche pour les femmes, pour qu'elles apprennent des techniques, qu'elles puissent les réinvestir chez elles. Et c'était par exemple apprendre à nettoyer son siphon, à poser un joint, à fixer des étagères, etc. Et le bâtiment sert à ça aujourd'hui. Ça s'appelle l'atelier des femmes. Et c'est le local des enchantières, là où les ateliers ont repris à destination des femmes. Par exemple, cette semaine, il y avait un atelier de plomberie pour apprendre à réparer sa chasse d'eau. Un nouvel atelier de fixer à accrocher pour apprendre à fixer des choses dans le mur, pas que des étagères d'ailleurs, mais dans différents supports muraux, que ce soit le béton, le bois, etc. Avec quel outil on fait ça ? Voilà, l'idée c'est vraiment que les femmes puissent réinvestir ces savoirs chez elles. C'est parfois des femmes qui vivent seules ou des familles monoparentales ou des femmes qui aiment bricoler tout simplement et qui n'ont pas forcément ni envie ni les moyens de se payer un corps de métier pour le faire à leur place.
Alors, il y avait une condition au départ pour que vous puissiez filmer qui était non négociable, c'est qu'il fallait que vous participiez au chantier. Alors comment vous organisiez votre emploi du temps entre les parties où vous aviez la caméra et les parties où vous aviez une visseuse, une perceuse ou je sais pas moi, un marteau ?
Alors c'était différent pour ma co-réalisatrice Laetitia et pour moi parce que Laetitia avait des compétences vraiment sérieuses dans le domaine de la menuiserie notamment, mais pas que. Et elle a été souvent sollicitée pour être encadrante sur le chantier et dans ces cas-là, c'était moi qui filmais. On voit beaucoup Laetitia dans le film. On me voit moins moi parce que j'étais moins réquisitionnée comme encadrante. Moi, je partais de rien. J'étais pas bricoleuse et je savais pas utiliser les outils. Et je suis néanmoins allée sur le chantier comme apprenante. Donc, il y avait des jours où j'allais avec la caméra. Il y avait des jours où j'allais sans caméra pour apprendre. Donc, j'ai appris pas mal de choses. Je sais utiliser une visseuse. J'ai appris le ciseau à bois. J'ai appris à vaincre mon vertige. J'avais énorme vertige et puis au final je suis moi aussi montée sur les échafaudages et sur le toit pour travailler.
C'est un film qui célèbre les femmes mais qui ne va pas contre et qui n'accuse pas par rapport à un spectateur masculin. C'est quand même extrêmement vivifiant d'une certaine manière. Vous la comprenez cette réaction ?
Oui, je la comprends. Comment dire ? Je crois que ni les enchantières, ni moi avons l'énergie de faire un travail contre. En fait, leur idée et la mienne par ricochet, c'est vraiment de permettre aux femmes et à nous-mêmes, d'ailleurs parce qu'on fait partie du truc, de s'autonomiser. Donc toute l'énergie est mise là-dedans. Et puis, ce qu'en pensent les hommes autour, super s'ils adhèrent. Et puis, tant pis s'ils adhèrent pas et c'est pas grave, mais c'est un lieu qui se construit et qui laisse son empreinte. Je sais pas si j'avais jamais perdu le goût de filmer, mais en tout cas...
Tu étais plus dans la transmission ces dernières années peut-être ?
J'étais plus dans l'énergie de la transmission. En fait, je crois que j'ai l'impression d'avoir besoin d'être complètement passionnée par une question, par un sujet, pour aller le filmer, un peu comme si c'était une question de vie ou de mort. C'est irrépressible et je pense que si je rencontre un autre sujet que j'aime passionnément, je vais continuer à faire des films. Et si jamais ça ne s'impose pas à moi, je ne vais pas du tout aller chercher les choses. Je pense que quand on n'a rien à dire, on ne dit rien.
Il y a déjà eu des avant-premières du film, notamment à Montreuil, où c'est là où ça se passe, disons. Qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce que vous avez tiré de ces premières rencontres avec le public?
À Montreuil, c'est comme...
Jouer à domicile.
C'est ça, c'était un peu facile comme terrain parce que les enchantières sont très connues à Montreuil. En plus, c'est une association, le jour de la fête des associations, le jour de la fête de la ville, qui a un stand dans la fête du quartier de Lanoux où a été construit l'atelier. Donc, il y a eu énormément de monde. On avait la grande salle de 320 places et c'était plein, avec des personnes qui étaient, je pense, très enthousiastes au départ. Donc, c'était très impressionnant de montrer le film dans ces conditions assez idéales. À la fin, j'étais sur scène avec ma co-réalisatrice et ma productrice et puis je l'ai demandé à faire venir les enchantières et on s'est retrouvés à 30 personnes sur la scène. Et c'était fantastique, c'était très chaleureux et je dois dire qu'il y avait beaucoup de questions qui étaient pour les enchantières, même plus que pour le film. Et ça m'a ravie parce que le film, il est fait pour les montrer elles.
La production avignonnaise, c'est une signification particulière pour vous ?
Oui, c'est une partie de mes racines. Moi, j'ai été scolarisée au lycée Mistral. J'ai passé mon bac au lycée Mistral à Avignon. Et je suis souvent revenue parce que mes parents habitaient là. Donc, il y a un attachement qui est très fort. J'ai énormément fréquenté Utopia, qui a été pendant un temps ma deuxième maison. Et depuis que je suis à Montreuil, c'est le Méliès à Montreuil qui est ma deuxième maison. Mais en tout cas, oui, il y a un attachement très fort. Et j'ai encore des amis ici, des gens avec qui j'ai travaillé. C'est très important.